Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'ACF en Aquitaine est ravie d'être accueillie par la librairie Mola pour la première conférence du séminaire des échanges avec Guy Briol, qui nous fait l'honneur d'être là. Aujourd'hui, il va nous parler, on va discuter ensemble de son ouvrage « Monologue partagé avec la folie ». Donc, quelques mots de présentation. Guy Briol est psychiatre, un psychanalyste exerçant à Paris et à Barcelone. Professeur de psychiatrie, vous fûtes pendant 20 ans médecin-chef de la clinique de psychiatrie de l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Vous êtes membre de l'ECF, l'école de la cause freudienne, de la, excusez-moi pour l'accent, Euskela Lacaniana des psychoanalystes de l'Association mondiale de psychanalyse.
Très bien.
Et vous êtes l'actuel président de l'Eurofédération de psychanalyse. Vous participez aussi activement à l'enseignement dans le cadre du FORCA, qui est l'Union pour la formation en clinique psychanalytique, et dans d'autres sections cliniques, particulièrement en Espagne et en Amérique latine. Vous êtes auteur de nombreux articles, notamment sur le traumatisme, en particulier de guerre, traumatisme de guerre. Et vous continuez à vous impliquer dans des actions où s'exerce la violence avec les collègues de différents pays, dont l'Amérique latine, il y a eu en Espagne lors des attentats, à Madrid et au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, on va vous entendre sur votre ouvrage. Juste avant de vous laisser la parole, je voudrais dire que ce livre est un livre très clinique, où il y a beaucoup de cas et où vous rendez compte de ce que peut être une cure analytique avec des sujets, quel que soit le degré de folie de ces sujets que vous avez reçus ou que vous recevez. Donc, je vous laisse la parole et puis nous allons ensuite discuter.
Eh bien, merci beaucoup. Moi, je veux aussi remercier l'ACF en Aquitaine, particulièrement donc Marie Tabarin, sa déléguée régionale, et Pénélope Fay, qui organise en effet les trois soirées du séminaire des échanges. Et je suis aussi sensible à l'accueil de la librairie Mola. Donc nous allons nous voir trois fois. Le 4 octobre, nous parlerons du discours analytique et le 7 janvier de la haine. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur deux termes qui peuvent paraître antinomiques, folie et liberté. Nous le ferons donc, et j'en remercie les organisateurs, autour de mon livre « Monologue partagé avec la folie ». Justement, le livre commence par une phrase de Lacan. Je le cite. « L'être de l'homme non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l'être de l'homme s'il ne portait en lui la folie comme limite de sa liberté. » Ce propos de Lacan, qui marque cette intimité avec de l'homme avec la folie, sera notre point de départ et notre boussole. Je l'expliciterai un peu plus tard dans mon exposé. Quelques lignes autour d'une pratique. Au-delà, donc, comme le disait Pénélope Fay, de mes réflexions théoriques, ce livre est avant tout une tentative de transmettre ma pratique avec ses sujets en analyse. C'est ici, dans cette clinique et dans cette pratique, que nous pouvons saisir le sens de cette phrase que l'on répète sans cesse, le patient et le théoricien de son propre cas. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout d'abord, que Freud, comme Lacan, ont tous les deux établi une théorie de l'inconscient à partir de ce qu'ils ont appris de leurs patients. Freud, en particulier, a fondé ses théories de l'inconscient sur des sujets hystériques, tandis que Lacan, avec le cas Aimé, a repris la question de la clinique à partir de la psychose. Pour nous, psychanalystes lacaniens, la clinique est différente de celle établie à partir de l'observation dans des classifications psychiatriques. En d'autres termes, nous n'appliquons pas un modèle nosologique à un patient pour le faire entrer dans une catégorisation établie. Mais nous cherchons ce qui le rend unique. Dans le cas des psychotiques, ou des fous en général, c'est le patient lui-même qui nous apprend quelque chose de son fonctionnement, de la signification de ses voies, de son comportement atypique. Il arrive même à expliquer la causalité de ses troubles. C'est en ce sens que je disais qu'il est le théoricien de son propre cas. Je parlais de causalité et maintenant je voudrais aborder une partie que j'ai intitulée « Ni causalité lésionnelle, ni sociétale ». C'est donc dans le dernier chapitre du livre que j'explicite le pourquoi de cet énoncé de Lacan que j'ai placé au début de mon intervention comme un exergue. Je vais reprendre ici, pour l'essentiel, l'argumentaire. Il s'agit pour Lacan de s'opposer à toute réduction de la folie à une dimension déficitaire ou lésionnelle qui ferait de lui un sujet non responsable. Il s'attaque très nettement à la thèse défendue par Henriet avec son organodynamisme hérité en partie de la causalité lésionnelle qui avait été mise en évidence par Gaëtan Gassien de Clérambault sous la forme, disait-il, de lésions histologiques par un processus serpigineux. Vous voyez comment tout ça est alambiqué. Mais ces processus donc étaient localisés dans le cerveau au niveau du centre du langage. On y voit là l'artifice. Évoquer le langage, certes, mais dans son lien à un fonctionnement cérébral. Par ailleurs, Lacan situe à l'autre extrême la causalité socio-familiale unique défendue par l'antipsychiatrie. Le psychotique profère la vérité sur les failles sociales et leur masque vertueux d'aliénation. Cette vérité pour les antipsychiatres, cette vérité énoncée par le psychotique serait l'expression de sa liberté. Eh bien, ces éléments seront repris 20 ans plus tard par Lacan en 1967, dans son allocution sur les psychoses de l'enfant. Dans ce texte, il dénonce cette perspective, dit-il, un peu courte, et que cette liberté suscitée, suggérée par une certaine pratique s'adressant à ces sujets, ne porte pas en elle-même sa limite et son leurre. De même, il souligne que dans des institutions, émanation des sociétés, en rapport avec les psychotiques, il y a toujours un point, plus ou moins apparent, où prévaut un rapport fondé à la liberté. Autrement dit, que l'institution soit toute ouverte, là où d'autres sont réglés, régis par la loi sur les placements, cela n'en règle d'aucune façon la question de la liberté de celui qui est touché par la folie. Ces sujets peuvent d'évidence nous le montrer quand, par exemple, ils demandent eux-mêmes à être enfermés ou jugés pour protéger leur liberté. J'insiste sur ces points car, vous l'entendez, le débat reste aujourd'hui, pour l'essentiel, toujours centré sur une causalité organique ou sociétale. La science et le politique poursuivent leur alliance pour dire ce qui est bien pour celui qui déraisonne. Mais sa parole à lui, ce qu'il dit, reste déni. Pourtant, si on écoute ce qu'il veut transmettre, il donne à entendre ce qu'il endure, pour conquérir justement un peu de liberté. Ainsi le formule un de mes analysants, théoricien de son cas, donc je le cite. « Je suis toujours en lutte contre l'asservissement à un autre ordre, pas celui de tous. La part de bras de fer pour ma liberté s'est maintenant centrée sur mes séances. C'est vous, me dit-il, qui, de me recevoir, d'écouter ce que je tente d'articuler, de ne pas reculer à me questionner, permettez que dans ma vie courante, je gagne un peu d'espace par rapport aux autres. Mais, dit-il, c'est fragile, ce n'est jamais en paix. » Alors, monologue partagé. Ça préoccupait beaucoup Pénélope qui me demandait pourquoi j'avais choisi ce titre. Cet analysant dont je viens de parler a tout à fait raison. Et ce lien de parole dont il parle, dans le transfert, doit être soutenu. Cela s'apparente à cette modalité inventée par Lacan pour soutenir un transfert possible avec sa patiente aimée. Il avait lui-même opté pour des entretiens à bâtons rompus. Bien plus tard, en 1977, Lacan rappelait qu'on disait des malades dont il faisait la présentation à l'hôpital Sainte-Anne qu'ils ne parlaient pas la même langue, pas la même langue que lui, pas la même langue que nous, qu'il y avait un bilinguisme, dit Lacan. Il s'agit donc de trouver comment se parler au-delà des langues en les mêlant parfois. Ainsi, monologue partagé est pour moi une forme alternative au dialogue. Ce n'est pas dialectique, mais ça se parle. Ce sont comme deux monologues, mais qui s'articulent entre eux. Et au fond, quand cette articulation monologue partagé m'est venue à l'esprit, j'ai tout de suite pensé que c'est ça que je voulais transmettre. J'ai pensé que c'était une façon, une autre façon, d'exprimer les malentendus qui surviennent lorsque deux êtres humains se parlent. Comment nous écoutons-nous? Comment adoptons-nous nos oreilles pour pouvoir capter ce que dit l'autre? Et en particulier, celui que nous appelons le fou. Alors, si le fou parle généralement à lui-même, se parle à lui-même, ou à des êtres imaginaires, il peut aussi parfois s'adresser à quelqu'un, par exemple à un psychanalyste. Alors, comment pouvons-nous transformer ce monologue en quelque chose qui fonctionnerait dans une modalité similaire à celle d'un dialogue, c'est-à-dire, par exemple, comme je l'ai aussi développé pour des situations d'urgence, en s'interrogeant sur comment nous pouvons, avec ces patients, en tant que psychanalyste, faire avec eux la paire dans la relation transférentielle. Faire avec eux la paire, c'est une citation donc de Lacan, que l'on trouve dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11. Arrêtons-nous un instant sur folie, raison et maladie mentale. Pour ce faire, et donc en m'adressant à de futurs lecteurs, j'ai commencé par essayer de définir ce que l'on entend par folie, délimiter le concept, et dans une deuxième partie du livre, rendre compte d'une clinique sous transfert basée aussi fidèlement que possible sur mon expérience en institution comme en cabinet privé. Alors la folie ne devient pas fou qui veut. C'est une interpellation de Jacques Lacan qui nous est familière à nous ses élèves. Plus que ce qu'il appelait une plaisanterie de jeune interne en psychiatrie, lors de sa formation à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, cette phrase contient la part de ce qui est imposé à ses sujets et la part de responsabilité qui nous incombe à tous, fous ou non. Et cette phrase, ne devient pas fou qui veut, vient en opposition à une autre proposition de Lacan, plus tardive dans son enseignement. Je le cite. « Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. » Certes. Cependant, si tout le monde est fou, tout le monde ne l'est pas de la même manière. Plus précisément, dans la conception lacanienne, cela signifie que ce qui va nouer les trois parties réelles, symboliques, imaginaires, que nous appelons le saint homme, est à construire pour tous. Dans le meilleur des cas, et pour les sujets névrosés, nous appelons ça le nom du Père, qui est l'inscription du symbolique, disons-le autrement. C'est cela qui nous amène à répéter que le fou est l'homme libre, libre de ne pas être aliéné au langage. Cette dite liberté n'est pas le choix d'une solitude et les sujets habités par la folie font parler d'eux, faute de trouver quelqu'un à qui parler. Fou, folie, ces mots sont passés dans le langage courant et peuvent être utilisés dans n'importe quelle langue pour désigner des choses très différentes qui ne sont en rien équivalentes. La folie est définie comme une perturbation de l'esprit, qu'elle soit durable ou temporaire. Je veux dire tout de suite que c'est un fait de civilisation, car elle n'a de sens que par rapport aux lois qui régissent les relations entre les personnes dans une société donnée. On peut y trouver et y noter toutes les gradations qui vont du grain de folie qui peut faire chic à la folie furieuse qui, elle, vraiment est une extrême urgence. Et ceci en passant par des états d'inadaptation et d'exclusion, mais qui toutes se marquent d'une souffrance. Je veux dire que le pendant de la folie n'est pas la maladie mentale, mais la raison. La folie, c'est l'autre de la raison. À propos de la folie et de la psychiatrie, je voulais juste dire que la folie n'a jamais été complètement résorbée dans la maladie mentale, quels que soient les efforts des psychiatres. Il y a toujours quelque chose de cette folie qui échappe à la science et à la société. Quelque chose de ce fou qui ne peut être réduit et qui, en fin de compte, conserve sa liberté. Alors, la liberté, un aperçu. Parce qu'on pourrait faire plusieurs interventions sur la liberté. Je reprendrai là la définition du mot « liberté » que propose le philosophe André Lalande dans son dictionnaire donc de la philosophie. La liberté, dit Lalande, est l'état de celui qui fait ce qu'il veut et non ce que veut un autre que lui. Elle est l'absence de contraintes étrangères. L'homme libre, c'est celui qui agirait conformément à sa volonté. Alors, vous voyez que cette définition est une définition très générale, avec une dimension aussi philosophique, et pourtant, elle contient trois notions qui nous retiennent. La première, la catégorie d'un autre, petit autre, ensemblable, ou d'un grand autre, comme on dit nous, où pourrait s'aliéner la liberté. Deuxièmement, la contrainte extérieure et ses degrés. Troisièmement, la notion d'une décision du sujet, donc de sa responsabilité. Mais voilà qu'une autre question se pose à nous à partir d'une interview que Lacan accorde à Louvain en 1972, où il lâche vivement, à celle qu'il a, Françoise Wolff, qui l'interviewait, je ne parle jamais de liberté. Alors, il faut remarquer quand même que cette réponse ne vient pas dans n'importe quel contexte. Elle vient donc en retour de la question de Françoise Wolff qui lui demande s'il n'y a pas, de la part de la psychanalyse, une répression de la liberté. On comprend que ça avait pu l'agacer. Donc, c'est là qu'il répond, je ne parle jamais de liberté. Enfin, notons aussi que parler de liberté n'est pas strictement équivalent à parler de la liberté. Dans ce dernier sens, on ne peut que renvoyer la question du côté du sujet. C'est-à-dire, comme Lacan pourra le dire à un autre endroit, c'est libre que l'on entre dans l'analyse, mais le dire ainsi vient apparemment en contradiction avec le fait que celui qui postule à l'analyse, névrosé ou psychotique, le fait aussi de se trouver entravé quant à la liberté. C'est ça aussi qui amène les sujets névrosés à commencer une analyse. Cela a pu valoir tout autant donc pour le sujet psychotique que le névrosé, lorsque les difficultés à vivre, voire la folie, se présentent au fond quand le discours ne se coopte pas à l'expérience. C'est que pour être libre, entre guillemets, le fou se doit de constater que la réalité extérieure, elle, s'en trouve peu modifiée, ou pas du tout. Il n'y peut rien et sa certitude ne se vérifie pas. Il doit donc parfois se résigner. Entrons dans une autre dimension, c'est la folie avec le psychanalyste. Donc folie et transfert. Dans ma note préliminaire, j'ai souligné que ce livre s'adresse à tous ceux qui sont concernés, qui se sentent concernés, donc par ce que nous appelons de ce contour multiple, la folie. La folie prend un sens très particulier lorsqu'elle est associée à la psychanalyse et au lien transférentiel. Lien transférentiel qui met au travail le psychanalyste et ceux qui s'adressent à lui lorsqu'ils perdent la raison. L'enseignement de Lacan ne nous amène pas à réduire la folie, ses expressions, à une clinique quelle qu'elle soit. Ainsi, même si de temps en temps dans le livre je peux me référer à la nosologie, ce n'est pas l'objet principal de mon travail. Mon objectif, c'est plutôt de penser, avec le dernier enseignement de Lacan, une clinique continuiste. Une clinique qui rende compte des solutions qu'un sujet a pu trouver pour se soutenir lorsqu'il n'a pas l'usage du symbolique. Ce n'est pas radicalement ou la névrose ou la psychose. Il y a d'autres façons de concevoir une multitude de patients qui souffrent d'être diagnostiqués, qu'on leur ait mis un diagnostic. Je veux dire que leur mettre un diagnostic, ça les fige dans une catégorie d'où se déduit un pronostic, un traitement et bien souvent un devenir que les statistiques décident. Alors, c'est une toute autre dynamique que de soutenir que dans le transfert, dans un travail de nouage, d'un lien qui s'est rompu à un moment ou à un autre de la vie d'un sujet, que cela implique donc l'analyste. Alors, je l'ai écrit comme ça à la page 62 de mon livre. Le transfert, si singulier en raison du risque constant de prendre une tournure excessive, l'érotomanie de transfert par exemple, n'en est pas moins inventif. Il n'est pas compatible avec des postures figées et craintives. Au contraire, il inclut à la fois engagement, flexibilité et une part de semblant. j'insiste toujours à cet endroit sur ceci que ces patients peuvent eux-mêmes demander d'introduire dans la modalité relationnelle cette part de semblant qui peut leur paraître nécessaire. Par exemple, dans leur relation avec les voix, ils peuvent demander à l'analyste convoquer ici, en opposition à ce qui entrave leur liberté, de les libérer de la contrainte qu'ils subissent de la part de leur voix. Mais aussi, en même temps qu'ils demandent ça, de ne pas être trop présents en concurrence avec ces voix qui leur parlent. Qu'ils soient prêts, en partie, à faire semblant. Un analysant l'exprimait très bien. Il le disait ainsi. Je ne veux pas aspirer à être en harmonie, mais toujours attentif à ce qui se passe en moi. Je devrais toujours y faire face. Donc je serai toujours en analyse si je veux conserver une certaine éthique. N'essayez pas de me normaliser, me dit-il. Je ne crois pas à l'inconscient. Continuez à faire comme si vous croyiez mes balivernes. Donc, en effet, si je prends note de ce qu'il me dit, si je prends bonne note, c'est cependant toujours l'analyste qui oriente à la cure, en tenant compte des singularités de ces analysants qui ne cesseront jamais de nous surprendre. Nous devons apprendre d'eux, comme le disait Lacan dans son hommage à Marguerite Duras. L'artiste le précède toujours. Il ne s'interprète pas. Le fou a quelque chose d'un artiste, certains le sont, reconnus comme tels. En tout cas, le fou ne s'interprète pas. Alors, quelques singularités de monologue partagé. Singularité, le mot n'est pas ici surfait. Il s'illustre simplement de l'écoute des trouvailles de chacune des solutions élaborées par ces sujets en s'appuyant sur le nouage, je le redis, que permet le travail de transfert. C'est toujours surprenant et je le dirai ainsi, ça leur va très bien. C'est du sur-mesure. Reprenant l'heureuse formule de Jean-Pierre Defieux, il se présente en costume de névrosé. J'écris que du côté du cogito, c'est « j'existe même si je suis fou ». C'est tellement vrai que pour beaucoup, il passe inaperçu. Quelques mots sur l'incroyant à la psychanalyse. Pour ceux qui ont lu le livre ou qui le liront, vous verrez que je lui ai réservé un chapitre entier. Voilà maintenant 24 ans que trois fois par semaine, il continue son travail d'analysant. Il ne doute pas que ce soit une analyse. C'est à cette condition qu'il s'autorise la possibilité de vivre. Je le cite. Ma vie et la psychanalyse, c'est indissociable. Et il ne perd pas de vue que ce qui n'est pas sans risque dans l'espace fragile du transfert et qu'il énonce ainsi. Je crains que l'espace privé du psychanalyste ne force le mien. C'est la menace sous laquelle je ne veux pas tomber. Ne pas être exposé à votre jouissance, me dit-il. Pour cela, je me protège de savoir le moins de vous, de votre vie privée. Et il ajoute, un truc s'est passé avec vous qui me ramène toujours à l'analyse. C'est ma vie. Tout cela est vrai et pour vous, il y a un risque sur l'affect que je vous prête, me dit-il. Et là, c'est une phrase qui m'a appris beaucoup de choses. L'analyse, c'est vous sans vous. L'analyse, c'est la séance, l'espace de la séance. Comment puis-je vous dire mieux, me dit-il. Il faut que je me tienne strictement à ça, c'est mon assaise. En effet, il ne peut dire mieux, et ça nous enseigne. Avant d'insérer le récit de son travail analytique dans le livre, je lui ai soumis le manuscrit et demandé son autorisation à le publier. Assis face à moi, il a lu ces pages avec une profonde attention. À la fin, il n'a pas douté pour signer en disant « C'est moi, je vous remercie ». Alors je lui ai dédicacé le livre et je vous dis la dédicace que je lui ai écrite. En toute simplicité et sincérité, je peux vous dire que vous m'avez enseigné avec mon estime. Le travail se continue toujours avec lui. Pour une autre, j'ai intitulé cela « Parler le lacanien ». Parler le lacanien, c'est le moyen qu'a trouvé Marie. Quand elle le dit, les mots se faisaient menaçants et qui ne s'articulaient pas entre eux. C'est ça qu'elle appelait délirer, et elle a raison. Et qu'il fallait les nouer, et pour les nouer, c'était en lisant Lacan et en réintroduisant le style de Lacan dans les mots qu'elle trouvait menaçants, qu'elle arrivait donc elle-même à s'apaiser. Je suis donc moi-même supposé parler le lacanien. Je vous assure, je fais de mon mieux. Édipien en diable. Lise est à l'analyse et elle s'efforce de coller à la théorie lacanienne de l'Édipe qui lui ont été inculquées par sa mère, elle-même psychanalyste, et son analyste, elle aussi très freudienne. Donc, la théorie qu'on lui a construite, pour elle, à sa place. C'est un trop d'amour pour le père qui lui fait faire n'importe quoi avec les garçons. Mais tous sont d'accord concernant Lise, ça ne lui vaut rien d'être amoureuse. Elle aussi, mais elle se plaint surtout de que cela permet de passer sous silence les attouchements forcés de son frère aîné, que tous ont nié ou pour le moins en ont minimisé la portée. Tout le monde sait à sa place. Toujours le costume, sauf que, parfois, la sexualité déborde quand cette fois c'est le diable qui lui impose une jouissance à laquelle elle résiste en vain. Alors elle tente de l'expliquer par analogie avec la violence fraternelle. Elle ne peut le partager qu'avec l'analyste, pas dans la famille. Dans sa famille, on dit qu'elle est folle. Le juge, la prison et le suivi. Ouah, monsieur Ouah. Ouah, ça veut dire quoi? Et en effet, c'est quoi? Cette collection de quelques 1000 films pédopornographiques, aucun n'ayant été sorti de leur emballage, rencontré par la police alors qu'il était surveillé pour des achats itératifs. Et c'est donc à la demande de son avocat que j'ai accepté de recevoir cet homme sous injonction thérapeutique du juge. Bon, c'est pas habituel. Il ne sait qu'en dire en dehors de pourquoi est-ce qu'il avait accumulé toutes ces cassettes. C'est au cas où, me dit-il. C'est énigmatique. Il veut que je lui explique. Je lui demande de s'expliquer. Ce serait à l'analyse d'expliquer, de parler là où lui se tait. Il est prêt à payer pour ça. Je dirais qu'un effet de transfert s'est produit en ceci qu'il a logé chez l'analyste une question sur ce qui lui est à lui-même énigmatique. C'est ce qui le conduira à retrouver son père, la trace de son père, d'origine vietnamienne, toujours rejeté par la grand-mère maternelle qui disait avec insistance à M. Hua qu'il devait se méfier de son père, un vicieux pédophile. À partir du moment où il retrouve ce point-là, c'est enclenché et nous trouverons sur ce nouveau chemin aussi une lettre de son père, reçue il y a 20 ans, et toujours non lue, non ouverte. Ce qui l'inquiète, ce n'est pas ce qu'elle contient, mais me précise-t-il, selon lui, ce qu'elle ne contient pas. Vous voyez que là, le registre n'est plus le même. Nous ne sommes plus dans le registre du traumatisme sexuel. Nous sommes dans un autre registre. Et tous les autres. Alors, je vous laisse le soin de lire leur destin, disons-le ainsi. Au fil de leur engagement, ou des impasses dans lesquelles ils se sont enlisés. Ici, des familles qui les lâchent, ailleurs, les ravages impitoyables de la guerre. Enfin, la question de la folie se pose aussi dans le rapport à Dieu, et tous ne sont pas Schreber. On pourra d'ailleurs constater que la folie moderne n'a pas changé de Dieu depuis Schreber. Même si ces sujets passent par la modernité ou qu'ils empruntent à la science, l'emploi, entre guillemets, qu'ils font de Dieu reste le même, en ce sens que ce qui est toujours redouté, c'est le laisser tomber, ici celui d'un Dieu intemporel, absolu, qu'aucun des dieux modernes ne peut à terme supplanter. Folie mystique ou mysticisme permet d'évoquer la question de la démarche du mystique vers Dieu au regard, pour beaucoup de psychotiques appelés à tort délirants mystiques, de l'omniprésence de l'autre divin. Maintenant, ça va devenir un tout petit peu technique sur la fin. J'ai appelé ça la folie, la liberté et l'analyste de l'école. Alors ça, c'est pas dans mon livre, mais comme nous avons à Bordeaux deux nouvelles analystes de l'école nommées, voilà, je voulais moi aussi les questionner. Donc, peut-être pour terminer, on pourrait se poser une question à nous-mêmes psychanalystes. Peut-on parler de liberté nouvelle en fin d'analyse ? Le dire ainsi introduit à ce que, comme dans une analyse, on retrouve à la fin à questionner le point d'entrée dans la cure pour celui qui se trouvait souffrir d'être entravé quant à sa liberté, aliéné à l'autre du langage, soumis aux contingences des trébuchements du désir. Celui qui, dans cette configuration, ne se sentait pas heureux des modalités de jouissance prises dans les raies de son fantasme fondamental. Donc, à la fin de l'analyse, Lacan avait, pour ceux qui ne sont pas familiers, inventé un dispositif qui s'appelle le dispositif de la passe, dans lequel donc un analysant qui pense avoir terminé donc sa cure peut rentrer dans ce dispositif en allant témoigner auprès de deux passeurs qui eux-mêmes vont s'adresser à un jury de la passe pour vérifier s'ils ont terminé ou non leur passe. Alors, à la fin donc de l'analyse, dans le temps de la passe, et au-delà pour celui qui sera nommé analyste de l'école, c'est probablement ce qu'il voit en se retournant sur le chemin parcouru dans la cure et dont il va témoigner donc auprès des passeurs, comme je le disais. Il va faire valoir ce qui a changé par les coupures qu'a opéré l'analyse sur ses modes de jouir. Sa déprise du fantasme par sa traversée, sa désaliénation du savoir établi, sa séparation de l'autre et comment il a dû, je cite donc Lacan, consentir à la fiction d'un autre, qui a été repris par Jacques Alain Miller, là où il a été cerné comme sujet dans sa solitude. Sa manière nouvelle d'occuper la place de l'analyste. On peut considérer qu'il s'agit là d'un rapport autre à la liberté. Mais il y a un autre versant qui est en rapport avec ceci qu'à la fin de l'analyse, il reste un réel, un irréductible qui ne se relie à rien et qui est singulier à chacun. Il ne s'agit pas de s'identifier à ce réel, mais de s'en débrouiller. Alors la tâche de l'analyste de l'école dans son enseignement est de ne pas reculer à s'exercer au travail de dire ce réel. Comment il s'en arrange? Comment il s'y prend avec le « c'est ainsi » de la fin? Voilà quelles sont les nouvelles conditions de sa liberté dans l'engagement qu'il a pris en entrant dans la passe. Produire un savoir nouveau à partir du trou de ce réel qui reste. Alors cela, en effet, ouvre un autre espace de liberté totalement distinct. Une folie, peut-être. Voilà.
Merci, Guy Brilliol. Bon, il y a beaucoup de choses dans votre exposé et dans votre ouvrage. La question du transfert, de la parole, et puis de la folie, bien sûr, et de la liberté qui est au centre de votre livre. Donc je voudrais reprendre, peut-être pour commencer à discuter ensemble, les différentes déclinaisons de la notion de liberté que vous passez tout au long de... que vous dépliez tout au long de votre livre, avec quand même le paradoxe que vous citez, puisque vous dites on veut parler de la liberté alors que Lacan dit que jamais il n'en parle. Donc, au travers des cas cliniques que vous présentez...
Jamais il ne parle de liberté.
De liberté.
Pas de la liberté.
J'ai écrit la liberté, c'est vrai. Alors voilà, donc, de liberté. Donc, on entend au travers des cas cliniques, bien sûr, la liberté que permet la psychanalyse. Mais finalement, donc, il y a différentes déclinaisons. Il y a à la fois la liberté de celui qui refuse l'aliénation. Vous expliquez ça, le psychotique et l'homme libre, en citant Lacan. Il y a aussi la liberté de celui qui décide d'entrer en analyse. Il y a la liberté de parole de celui qui est accueilli, là d'où il parle. Et d'ailleurs, on entend bien la différence entre ces patients que vous avez reçus et qui témoignent justement du fait que, quand ils ont été reçus par ailleurs par des personnes qui n'étaient pas psychanalystes, on ne voulait pas les écouter, on ne les laissait pas parler, ils n'étaient pas entendus là d'où ils parlaient. Il y a un cas, je ne sais plus lequel, de quelqu'un qui dit « on ne m'a pas écouté, on n'a pas écouté ce que j'avais à dire ». Donc il y a le désir décidé de celui qui entre en analyse, qui est libre de cet acte-là, mais pourtant qui est absolument entravé par des chaînes très lourdes, du symptôme, du fantasme, pas tout à fait écrit ou entreaperçu. En tout cas, les chaînes sont lourdes. Et donc il y a la liberté à conquérir, la liberté dont on doit s'alléger, et puis autre forme de verso de la liberté, finalement, de chaîne suppléante qu'il y aurait à trouver pour vivre autrement une liberté, la liberté du psychotique trop lourde. Donc je voulais peut-être que vous dépliez ça un tout petit peu au travers de certains cas, et puis... aborder une notion conjointe à celle de la liberté, qui est la question de la responsabilité, qui concerne chacun d'entre nous, quelle que soit notre position dans l'existence, quel que soit le degré de folie, dont vous rappelez bien que la folie ne se résorbe pas du tout dans la maladie mentale, et cette responsabilité donc, qui ouvre sur une éthique, que ce soit celle de l'analyste ou celle du patient. Voilà, peut-être je voulais vous entendre un peu pour reprendre certains points.
Oui, je pense que vous avez bien décliné toutes les... Quand on dit le mot liberté, au fond, ça ne rend pas compte toujours de la même chose. Ce n'est pas une notion univoque. Et on voit bien comment, quand vous le dites à la fin, la question de la liberté s'articule aussi à la question de la responsabilité. On a vite fait de dire, au fond, que le fou, il est responsable. Ça, c'est absolument à l'opposé de ce que Lacan pense lui-même ou que nous pensons quand nous prenons à l'analyse ce type de patient. Ce qui est aussi très important, c'est en effet écouter. Et comment on écoute ? parce que là aussi, il faut arriver à trouver pour chacun, dans sa singularité, comment on va pouvoir faire un nouage qui ouvre justement à un autre type de liberté pour eux dans ce rapport au transfert. Évidemment, le patient auquel j'ai l'incroyant à la psychanalyse qui s'analyse depuis plus de 20 ans, il démontre cela parfaitement. Mais d'autres aussi. Par exemple, celui auquel vous faisiez référence, je pense que c'est le pendu. C'est-à-dire que lui, en effet, il fréquente les plus grands professeurs parisiens à l'époque, mais il avait son diagnostic, son traitement, son explication, sa causalité, tout était bien en place. Sauf le jour où on a voulu lui faire écouter sa voix et lui dire que voilà, cette voix, elle était, on l'entendait plus, mais que sa voix, elle, à lui, on l'entendait. Et là, il avait il s'est échappé de l'hôpital et il était venu donc dans notre service. Et c'est là que, en présentation clinique, je l'avais poussé à parler de lui. Qui dise quelque chose, non de la parole de la science et des professeurs, mais lui, qu'est-ce qu'il avait à dire? Et c'est là qu'il s'était fâché, puisque ça vous intéresse pas et que vous voulez que je vous parle de moi, je vais vous parler de moi. Et en effet, on voit là que sa dépression de type mélancolique avait commencé au moment où un de ses collègues s'était pendu, avec lequel, disait-on, il était en rivalité pour occuper sa place. Sauf que ça l'a surtout ramené au camp de concentration et au divertissement donc des dimanches où les SS faisaient pendre donc par d'autres prisonniers sur des airs de Mozart ou de Bach. Et donc c'est ça là qui est revenu. C'est tout ça qui a été enfoui, qui est revenu à ce moment. À partir de ce moment-là, évidemment, s'articule autre chose pour lui. Et lui, il insistait beaucoup sur la question de sa liberté, que maintenant, il allait pouvoir refuser le poste où on disait qu'il était en concurrence avec l'autre, non plus du côté d'une culpabilité au fait que l'autre s'était pendu, mais que maintenant, c'était une décision conforme à ce qu'il était lui. Enfin, je raconte ça en 10 minutes, ça prend des mois et des mois.
Voilà. Donc l'importance d'écouter et l'importance que le patient puisse dire quelque chose de lui, c'est aussi rattaché à ce que vous dites quand vous dites la nécessité de faire en sorte et de se dire que chacun est théoricien de son propre cas. Et donc, vous insistez sur la nécessité du transfert par la parole et avec certains sujets, notamment celui que vous recevez encore et que vous avez reçu, qui a commencé son analyse depuis 24 ans, finalement, c'est une cure qui s'étend sur un temps ininterrompu, enfin, jusqu'où ça va, il n'y aura sans doute pas de fin. Et donc là, c'est aussi ça l'orientation lacanienne, c'est-à-dire qu'une analyse, ça n'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas tous notre orientation, ça n'est pas simplement, bien sûr que c'est important, aller chercher les traumas, les souvenirs, les signifiants qui ont marqué une vie, parler de la marmite familiale, mais c'est aussi pouvoir, au présent, maintenir un lien de parole pour que, si cette parole-là ne se déploie pas au présent, les choses se défont. Et donc, pour ce patient, le nouage doit se refaire à chaque séance. Il le dit très bien quand vous citez justement c'est la séance qui compte, et que sans ces séances très régulières, les choses ne tiennent pas, et que donc, ça se défait. Et donc là, c'est encore autre chose que faire une plongée voilà. Vers l'avant, vers
le passé. Alors, je reprendrai bien à partir du mot « écouter ». Encore aujourd'hui, un certain nombre de collègues, dès qu'ils ont fait le diagnostic de psychose, surtout de psychose ordinaire, ils ne font rien pour ne pas déstabiliser ce qui est stabilisé. Mais moi, je pense tout à fait le contraire. Je pense que l'implication, ce que Lacan dans sa thèse disait, il faudra inventer une psychothérapie dirigée sous peine de dépérissement de la doctrine. Je pense que si on ne fait rien avec ces patients qui viennent nous voir, c'est en effet un dépérissement de la doctrine aussi. Je pense que tout ça suppose un engagement et une écoute où il va falloir pouvoir entrer avec eux d'une certaine manière pour tirer des fils et les nouer, les tresser avec eux. Ça me paraît fondamental. Sinon, en effet, quelque part, je cite cette phrase qui pour moi est importante de Jacques-Alain Miller, c'est que si on ne soutient pas ça, si on ne soutient pas un nouage, eh bien, il dit au fond, ça s'affadit, les mots tombent comme des pierres dans un puits. Eh bien, nous, dans notre implication, il ne faut pas laisser les pierres tomber dans un puits, mais il faut les recueillir avant pour chaque fois les réintroduire dans un nouage, chaque fois à refaire. Alors, évidemment, mon incroyant à la psychanalyse, quand il dit ça, c'est pas vous, c'est la séance, il a réussi quand même à enlever tous les risques d'érotomanie de transfert, dont on voyait dans quelques citations que j'avais dites avant que c'était ce par quoi il se sentait menacé, ne rien savoir de ma vie privée, bon. Et que là, il a pu vider l'espace de la séance de ces questions-là. Et là, il peut venir déverser, comme il dit, ses saloperies. C'est-à-dire qu'il faut quand même, dans le travail qu'on fait avec lui, dégager l'espace où que là, il puisse trois fois par semaine venir vider, pas vider son sac. C'est vraiment se mettre au travail éthiquement de parler de ce qui l'envahit. Parce que jamais le processus ne cesse de l'envahir, processus de pensée. Donc, en effet, c'est toujours à reprendre.
Justement, au sujet du repérage de psychose ordinaire, qui est un terme inventé par Jacques-Alain Miller lors de la conversation d'Arcachon, je crois, vous dites, au fond, maintenant, l'ordinaire fait maintenant norme, et cela peut conduire l'analyste d'aujourd'hui à se lover dans ce savoir dont il se réclame pour ne rien savoir de ce qui le concerne.
Et de ce qu'il doit faire.
Voilà.
Oui,
d'où l'implication.
Voilà, d'où l'implication. Parce que le concept de psychose ordinaire est très intéressant. Il est très intéressant parce que là, déjà, voilà un patient qui a trouvé des solutions. Il a trouvé des solutions, mais néanmoins, ça ne va pas tout à fait puisqu'il vient consulter aussi l'analyste.
Elles ne sont pas trouvées une fois pour toutes.
Voilà, pas une fois pour toutes. Donc lui-même, il sait qu'il y a un travail à faire. Mais c'est pas d'être face à quelqu'un qui est muet et qui ne fait rien que ça va soutenir quelque chose de son travail.
Donc vous citez donc cette phrase de Jacques-Alain Miller, les mots tombent, les signifiants qui tombent comme des pierres dans un puits. Voilà, ça c'est là. Et aussi ces moments où ces patients où il y a le vidage de l'affect, la chute de l'élan et qu'il y a là aussi à y mettre, à mouiller sa chemise.
Ça aussi, je trouve que c'est une phrase très, très importante de Jacques-Alain Miller, comme quoi, qui va toujours du côté de l'implication de l'analyste, relancer justement cet élan. Cet élan de dire. C'est pas un élan de faire n'importe quoi. C'est un élan de dire toujours dans la séance. Et ensuite, comme ils disent, je le transporte à l'extérieur. Mais il faut bien qu'il se passe aussi quelque chose dans la séance pour pouvoir vivre ensuite à l'extérieur.
Alors, il y a une différence importante qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, où vous lui donnez une formalisation vraiment subtile, quand vous différenciez avec des sujets psychotiques ce que c'est que le sujet supposé savoir, donc l'analyste qui est en place de sujet supposé savoir quand un patient arrive en analyse, il fait une demande, même si quelque chose était déjà formalisé en lui, il y a un transfert qui est déjà là avant même qu'il se mette à parler, et il a l'idée, le patient, que l'analyste a un savoir sur lui, alors même que l'analyste ne l'a jamais rencontré, qu'il ne sait absolument rien sur lui, mais donc le sujet supposé savoir se met en place. Et dans le cas de la psychose, là où c'est dans certains cas, la certitude qui est sur le devant du tableau, vous dites que ça n'est pas tant le sujet supposé savoir que, je vous cite, le supposé, donc l'analyste, le supposé porter un intérêt à la singularité de l'expérience vécue par le sujet.
Oui.
Donc c'est une façon aussi, on parlait de l'implication de l'analyste, une façon aussi de s'intéresser, mais d'une certaine place, tout de même, qui est aussi, enfin, ce que vous, en reprenant les termes de Lacan, faire la paire avec l'analyse. Je voudrais juste que vous reveniez sur cette distinction entre sujet supposé savoir et supposé porter un intérêt. La même chose.
Bon, sujet supposé savoir, vous l'avez
oui.
bien expliqué. Mais alors, donc, au fond, là, on dit, ah, mais il y a la certitude du sujet psychotique. Oui, il y a la certitude. On ne va pas s'opposer en effet à sa certitude ni à ses voix. Et par contre, il a tout un tas d'autres choses en dehors de la certitude dont il souhaite parler, dont il veut parler. C'est pour ça qu'il vient voir l'analyste. Ce n'est pas en effet pour qu'on le délivre de sa certitude. Plus il pourra parler de toute autre chose, et plus la certitude sera elle-même déplacée juste un point. Je cite souvent une analysante et une patiente qui venait me voir au Val-de-Grâce, et c'était la ligne 91, François, qui passe. Et cette ligne 91 l'amenait de chez elle à l'hôpital. Et alors, dans cette ligne 91, il se passait toujours des choses terribles. On l'insultait, on mettait des mauvaises odeurs, on menaçait de l'agresser. Et elle venait donc ensuite donc dans le service, et elle me disait, vous savez, dans la ligne 91, j'ai dit oui, je sais. Et après, c'était fini. Le point de certitude, il portait sur cette, ça avait été localisé là, et à partir de ça, elle parlait de sa vie, de tout le monde, de son travail, de ses questions avec ses enfants et sa famille. Alors, ils veulent témoigner. On le dit souvent. Souvent, on se demande pourquoi les patients acceptent de venir à la présentation clinique. Ben, c'est comme l'avait dit Lacan, ils veulent témoigner. Ils veulent témoigner de ce qui se passe mal dans le monde. Mais si on les laisse centrer uniquement là-dessus, on en oublie qu'ils ont aussi beaucoup d'autres choses à dire. Et que c'est quand même à partir de ce qui est des entours du point de certitude que l'on va pouvoir justement entrer dans le transfert. Alors, en effet, ça, il faut s'intéresser à ce qui leur arrive. Ah bon, et comment vous expliquez ça vous-même, comme avec Monsieur Roy, il s'est pas expliqué. Ben, on verra un peu la prochaine fois, mais toujours quand même, on est intéressé par ce qui lui arrive singulièrement à lui. Et c'est pas ben, tous les délirants racontent la même chose, c'est pas vrai. Chacun raconte une chose singulière. C'est ça le sujet pour moi, supposé s'intéresser.
Alors il y a aussi un autre point sur l'interprétation, notamment au travers du cas de Lise. Peut-être vous pourrez reprendre le cas. Enfin, cette jeune fille qui vit beaucoup d'explications de son analyste freudienne, enfin, avant de vous voir, et puis de sa famille. Des explications du côté du sens, c'est Oedipe, etc. Et finalement, la façon dont vous dépliez le cas montre bien que quand l'interprétation est véhiculée avec tout un bagage théorique, elle peut parfois, enfin en l'occurrence là c'est très parlant, ne pas être du meilleur usage. Et il me semble que ça montre bien en quoi l'orientation lacanienne, là aussi, se situe tout à fait très loin, dans un autre espace que celui d'un corpus de concepts qu'il s'agirait d'appliquer. Vous venez de le dire en disant que c'est la singularité. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi, par exemple, les termes qui sont amenés à Lise, trauma sexuel, complexe d'Œdipe, etc., justement, c'est un effet ravageant pour elle et que vous avez adoptez un contre-pied clinique.
Mais là, c'est que elle s'est mise dans le costume qui lui avait été préparé par sa mère, elle-même psychanalyste, et par son analyste elle-même. Alors, sauf que ça déborde. Le costume déborde, il est trop étroit pour elle-même. Et là, elle reçoit en effet la nuit, la visite du diable qui fait des choses sur son corps. Et ça, c'est encore repris dans la théorie freudienne, telle que la mère ou la psychanalyste antérieure le voyait, c'est-à-dire c'était des métaphores. La visite du diable, c'était des métaphores de l'agression sexuelle vécue par son frère aîné. Mmh. Et ainsi, toute la famille se tenait tranquille. En fait, elle dérangeait tout le monde. Elle dérangeait tout le monde à vouloir sortir du costume. Sa mère est décédée et elle a récupéré toute la bibliothèque psychanalytique de sa mère. Et d'une certaine façon, elle disait que ça faisait barrage comme les concepts. C'est-à-dire qu'elle s'appropriait le savoir contenu dans ses livres qui lui permettait à elle-même de lui donner un espace de confort. Mmh. Voilà. Ça, c'est mal terminé.
Oui. Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est enseignant parce que vous, vous faites aussi le récit de cas où justement, ça se termine mal.
Voilà. Contre l'alliance du père médecin et du fils, du frère responsable de l'agression, je n'ai pas gagné. C'est eux qui l'ont emporté, l'emportant elle-même d'ailleurs vers une nouvelle hospitalisation en psychiatrie. Mmh. Alors que pendant des années, elle trouvait tout de même à vivre, occuper une fonction importante dans le droit et à rencontrer aussi quelques garçons avec lesquels elle pouvait avoir, c'est là toujours qu'il y a des petits détails, qu'elle pouvait avoir des rapports sexuels, mais elle ne pouvait pas dormir avec eux à cause du réel du corps. Voilà, ça c'était très, très marqué chez elle. Bon, il y a tout. Tous ont leurs petites subtilités, mais qui servent dans leur manière de régler, elle, par exemple, sa vie sexuelle avec les garçons. Mm-hmm. C'est par cela que ça passait.
Voilà, et tous ces détails sont dans les cas. Bon, notre échange à nous se termine. Merci à la librairie Mola, merci Guy Briol.
Mais merci à vous.